Je vais faire ce segment un peu plus sociologique, un peu plus historique. Il y a quelques jours, à deux, trois reprises, je suis tombé sur des témoignages sur Facebook de protestants qui se convertissent au catholicisme. On est habitué d'apprendre et de constater l'inverse, mais que des protestants s'en aillent chez les catholiques, j'avoue que je ne comprends pas et je me demande qu'est-ce que eux autres n'y ont pas compris. On en parle dans les milieux pentecôtisants, dans les milieux protestants, parce que nous protestons, oui, nous attestons la vérité. Et la vérité, elle est la Bible, parce que c'est par la Bible, c'est par les écrits que Dieu se révèle au monde. La Bible renferme des... J'allais dire milliers, oui, des milliers de prophéties avec beaucoup de prophètes. Les prophètes qui sont connus de l'Ancien Testament et puis celui, le roi des rois, le prophète des prophètes, Jésus-Christ, celui que nous attendions, celui que le peuple d'Israël attendait depuis plusieurs millénaires et qui enfin ne l'ont pas reconnu, et que c'est la diaspora. Ça a créé la diaspora, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est disséminé partout dans le monde et que l'Évangile a été répandu à travers le monde. Ça commence là. Et beaucoup de monde encore aujourd'hui, ça me surprend, croit que Jésus-Christ est le fondateur de l'Église catholique. Et même, on ne pourrait même pas dire avec certitude qu'il est fondateur d'une Église, point. Lui, il est venu apporter la bonne nouvelle, ce qu'on appelle l'Évangile. Tous les enseignements en conformité avec les Écritures de l'Ancien Testament, car Jésus se promenait avec les Écritures, il enseignait, il a amené un petit peu plus avec les miracles, avec la parole de vie qu'il amenait au monde. Ce sont les disciples devenus apôtres qui ont formé ce qui est convenu d'appeler une église, une assemblée. Et ça s'est fait dans les premiers siècles suivant le départ de Jésus-Christ. Jésus n'a pas fondé d'église. Et ce n'est même pas la prétention. En fait, il l'a laissé comme une grande commission à ceux qui allaient venir après lui, comme un témoignage de foi. D'abord de Pierre, l'établissant comme le chef des chefs, le leader des leaders. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et lui laisse la commission. Mais on ne peut pas dire que Pierre est fondateur. Oui, il fait partie des membres fondateurs. En fait, ça prendrait plus qu'un podcast pour l'expliquer, ça prendrait tout un livre pour l'expliquer l'histoire de l'Église, de comment ça marche. Mais je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de monde qui pense que ça s'est fait facile, que l'Église a toujours été ce qu'on connaît aujourd'hui, que Jésus a fondé l'Église catholique, puis qu'il y a eu la succession, les papes, les évêques, les ta-ta-ta-ta, puis que ça s'est fait facile, puis... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais même la véritable Église, c'est celle dont témoignent les actes des apôtres. Et toute l'œuvre de Paul qu'on peut voir à travers ses épîtres écrites et celles des autres écrivains, tels Jean, Pierre, Jude, qui ont écrit plusieurs des épîtres que nous pouvons lire pour édifier justement cette Église naissante sous la mouvance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans les premiers siècles, était présent, était vivant, était agissant. Rien de catholique là-dedans. En fait, catholique est un mot, une dénomination, et ce sont les hommes qui ont donné soit les mots catholiques, protestants, orthodoxes, parce qu'il y a eu des schismes, il y a eu des divisions. D'abord, pour vous situer, je vais vous donner des données historiques. L'histoire du christianisme commence au premier siècle au sein de la diaspora juive, comme je vous disais tantôt, après la crucifixion de Jésus de Nazareth, dont la date probable se situe autour de l'année 30. Les premières communautés qui ne se définissent pas encore comme chrétiennes, sont fondées par plusieurs disciples de Jésus, en particulier dans les villes de Rome, Éphèse, Antioche, Alexandrie, mais aussi en Perse et en Éthiopie. Quand ils deviennent religion admise, puis la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, les premiers conciles définissent peu à peu un ensemble de dogmes. Mais les christologies déclarées hérétiques dans l'Empire ne disparaissent pas pour autant. Parmi elles, il y a l'arianisme, le nestorianisme, qui perdurent pendant plusieurs années, et je ne vais pas les développer ici, ce n'est pas mon propos. Au 7e siècle, le passage d'une grande partie des chrétiens du Moyen-Orient et d'Espagne sous domination musulmane modifie le paysage du christianisme et au 8e siècle, il y a la querelle des images, puis le débat sur le Saint-Esprit donne lieu à de nouvelles controverses qui, ajoutées aux rivalités politiques, aboutissent à la séparation des églises d'Orient et d'Occident. Le christianisme européen, parvenu à son apogée, s'étend jusqu'en Amérique à partir du 16e siècle, au même moment où il se fractionne de nouveau, cette fois en raison de la réforme protestante. Les guerres de religion s'ensuivent, mettront plusieurs siècles à s'estomper au profit d'une rivalité plus feutrée, puis d'une recherche d'unité et de tentative d'œcuménisme. Les trois grandes confessions chrétiennes, catholicisme, orthodoxie, protestantisme, regroupe au 21e siècle près de 2,5 milliards de fidèles répartis sur tous les continents. C'est triste quand même de constater 2 milliards de chrétiens divisés en différentes dénominations, pas capables de s'entendre sur la vérité de Dieu et sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Parce que beaucoup ne croient pas à l'Esprit-Saint, beaucoup croient à la Vierge Marie, d'autres ne croient pas à la Vierge Marie. Certains vont croire, plusieurs dénominations prônent de prier pour les saints, pour les défunts, et d'autres que non, et toutes sortes de dérives théologiques. Mais dans le siècle dans lequel nous vivons, dans les temps de la fin, dans les temps de la révélation telle qu'il a été donnée par l'apôtre Jean alors qu'il était emprisonné à Patmos, et c'est là que le livre de la révélation, le livre de l'Apocalypse, s'est révélé à travers les multitudes de songes que lui a eu et qu'il a mis par écrit de plusieurs des prophéties du livre de l'Apocalypse et du livre de Daniel se sont réalisées et c'est la vérité. Toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament renferment la doctrine, la véritable doctrine de Dieu. Et ces milliards de chrétiens cheminent tous les jours en cherchant la face de Dieu et en faisant un peu abstraction. Moi, par exemple, ces données historiques, moi, je n'étais pas là. Et l'histoire s'est tracée à travers tout l'Empire romain et l'Europe s'est développée à travers l'émancipation de l'Empire romain en fondant une religion officielle, en ayant pour trame de fond la Bible, mais très peu ont lu la Bible et l'avoir assimilée et compris comme du monde. Parce qu'avec l'Esprit Saint, avec les lumières de l'Esprit Saint, avec la véritable conversion, et Gandhi l'avait dit lui-même, un sage indien qui fait l'unanimité maintenant en regard, je crois, si j'ai bonne mémoire, avec l'ONU, je pense qu'il détient un prix Nobel, lui a dit, les chrétiens n'ont pas conscience qu'ils sont entre les mains de la dynamite en parlant de la Bible. C'est un livre qui fait révolution et que si nous la mettons en pratique, que nous mettrons en pratique les dogmes et l'enseignement de Dieu, ça change la vie. Ça change la vie. La vie est difficile et nous vivons dans un siècle qui est vraiment trouble. L'amour est bafoué. Ce que nous pensons que l'amour est, c'est de l'intérêt personnel. C'est souvent sous-jacent avec de la convoitise sexuelle, la pornographie. La pornographie est tellement omniprésente partout, même chez les enfants, et c'est très inquiétant à cause de leur accès à Internet et qu'ils voient des choses en dehors de leur développement psychologique tout à fait normal. et ça vient briser des milliards de vies. J'ai parlé de milliards de chrétiens, mais de ces milliards de chrétiens, il y a beaucoup d'êtres qui sont blessés et qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Que oui, ils entendent la parole de Dieu, mais ils ont besoin encore plus de cette lumière brillante de l'Esprit-Saint, de cette splendeur de vérité. Et Jésus l'avait dit lui-même, la moisson est grande, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Et les ouvriers, il y en a beaucoup qui se gonflent d'orgueil. Il y en a beaucoup qui prêchent Jésus-Christ, mais c'est eux autres qui prêchent parce qu'ils veulent se voir en avant et qui veulent récolter des dîmes et offrandes pour avoir une bonne vie, pour se faire un métier, pour être aimé, adulé des foules et se gonfler d'orgueil. Ce n'est pas le message de Jésus-Christ qu'ils prêchent. Mais c'est eux autres mêmes qu'ils prêchent. Ils prêchent de leur propre salut. Mais non pas tous, mais non pas tous. Il y a de milliers d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui sont vraiment imbibés de l'amour de Jésus-Christ, toutes dénominations confondues, et qui cherchent la face de Dieu. Et qui témoignent des merveilles de Dieu. Mais les contre-témoignages sont fort nombreux et donnent du plomb dans l'aile à ceux qui travaillent à la mission, à ceux qui prêchent la parole, à ceux qui s'en vont hors des sentiers battus. C'est difficile, plus difficile qu'avant, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de prêcher un Dieu amour, alors qu'il y a beaucoup de contre-témoignages de l'Église traditionnelle, des Églises traditionnelles. Alors ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, n'ont pas le goût. Parce que c'est dans l'apanage humain d'avoir des personnes crédibles qui leur livrent un message. C'est la même chose pour les hommes politiques. Beaucoup, si je fais un parallèle, beaucoup décrochent de l'appareil politique. Parce que les politiciens ne sont pas toujours cohérents de la bouche aux faits, de la parole aux faits. Les promesses sont toujours une série de mensonges qui s'empilent. Et l'Église n'aurait pas dû devenir ce qu'elle est devenue. Parce que l'Esprit-Saint s'est en allé. Mais s'il est revenu, c'est pour réunir toute son Église, pour que son Église soit prête, pour que Jésus-Christ, alors qu'il reviendra, retrouve une Église complète. Maintenant, nous sommes plusieurs dénominations chrétiennes qui prêchons le Christ chacun de notre côté, et nous ne faisons pas l'unité entre nous. Il y en a parfois qui se font des guerres de versets, des guerres d'idéologie théologique. On va respecter chacun notre carré de jardin, notre carré de potager, en se voyant, en s'envoyant la main de loin, mais en n'allant pas prier ensemble, en n'étudiant pas la parole ensemble. Oui, il y a certaines initiatives qui sont prises, mais c'est trop peu. Et il n'est pas trop tard. L'expression dit trop peu, trop tard, mais c'est trop peu ce qui est mis en place. Parce que nous sommes comme au temps des juges, quand Israël n'avait pas de roi et que c'était des juges qui gouvernaient le pays. Mais dans les temps troubles que nous sommes, et avec la prophétie abondante que l'Esprit Saint nous envoie, que les miracles aussi, que Dieu parle à son peuple, mais il y a encore trop de ping-pong spirituel, qu'on se renvoie la balle, qu'on n'est pas d'accord. Puis évidemment, l'Église traditionnelle fait erreur, mais en ayant un corpus d'enseignement parallèle à celui de la Bible et en étant idolâtre, juste la querelle des images, la période iconoclaste de l'Empire byzantin, querelle iconoclaste, pourquoi qu'ils sont tombés là-dedans? En lisant Exode 20, on a la consigne directement de Dieu. Cette consigne de Dieu, à travers les 10 paroles que Dieu a données à Moïse, de ne point se tailler d'image. Il y en a qui n'ont pas compris. Et c'est beaucoup plus tard que ça, une période qui s'étend de 726 à 843. Pendant une centaine d'années environ, les empereurs byzantins sont des iconoclastes. Il y a des icônes. Et il y en a d'autres qui vont combattre ça, étant donné le commandement de Dieu. Et ils vont ordonner la destruction des images qui représentent le Christ, qui représentent les saints, et qu'il s'agisse de mosaïques ornant les murs des églises, des images peintes ou d'enluminures de livres. Oui, il y a eu des grosses crises. L'histoire de l'Église n'est pas très glorieuse. Moi, j'aurais voulu, parce que c'est ce que je ressens quand je lis les Saintes Écritures, moi, j'aurais voulu que l'histoire de l'Église soit celle qui se déroule à partir de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, sans qu'il y ait eu de guerre de religion, sans qu'il y ait eu des déviations. Nous, les véritables chrétiens, et je dis véritables parce que nous avons le souci de nous ramener au tout début de l'Église naissante, alors que Jésus prêchait à Nazareth, à Bethléem, toute la Galilée, et puis toute la prédication des apôtres. Et Jésus ne nous a jamais quittés. Il a toujours été là par son Esprit Saint et l'Esprit Saint qu'on n'a pas toujours écouté dans l'Église. Et que je voudrais donc qu'on le retrouve et que tous les chrétiens que nous sommes qui cherchons Dieu puissions nous unir avant les temps de la fin. Alors que le Christ va venir et que nous sommes divisés, que nous faisons des guerres d'idéologie théologique, que nous passons notre temps à nous estimer et que nous prions chacun de notre place, de notre carré de gazon. Que les 10 paroles données à Moïse ne sont point respectées, que l'amour, la tolérance sont totalement bafouées jusqu'à ne pas être reconnaissables, que la pornographie et que l'hyper-érotisme est présent et qui pollue les consciences de milliards de personnes sur la Terre. Ça se passe beaucoup sur Internet maintenant. C'est très mauvais. Il y a des millions de personnes qui gagnent de l'argent à se montrer nus, à se masturber à journée longue sur des chats, des sites pornographiques. On parle même plus de revues pornographiques. On parle même plus de vidéos et de films érotiques. Oui, ça existe encore, mais c'est encore bien plus pernicieux que des gens respectables mènent une double vie en arrondissant leur fin de mois en se masturbant devant leur ordinateur. Je vous nomme pas de site, vous allez tomber sans le vouloir là-dessus, que je n'encourage pas cela et que c'est un phénomène très inquiétant. Ce que nous pouvons faire dans notre milieu, c'est de prendre soin des gens, que ceux qui sont malheureux, que ceux qui manquent de l'essentiel ne recourent pas à la facilité de gagner de l'argent, mais que c'est de leur annoncer qu'en cas de besoin, nous pouvons prier notre Dieu, que lui peut tout pour nous, que Jésus-Christ est dans Jean 9, 10, quelque chose comme ça. Que Jésus a dit, si tu pries dans le silence de ton cœur, que tu disposes ton cœur, mon Père et moi, nous allons venir souper avec toi. Oui, vous avez un besoin concret. Priez, priez. Quand ça va mal, notre premier réflexe, c'est de déprimer et de s'isoler. Et peut-être même de se droguer et de se noyer d'alcool. Alors que ce que nous devons faire, c'est de nous mettre à genoux et de prier notre Père qui est dans le ciel. N'oublions pas que Jésus-Christ est venu nous annoncer cette bonne nouvelle qui change la vie, cette heureuse information. Nous avons tendance à l'oublier que ça a existé. Nous lisons les miracles, nous lisons comme s'il s'agissait d'un conte ou d'un roman, mais sans plus, alors qu'il est encore agissant aujourd'hui et qu'il y a des milliers de témoignages à travers le monde, des gens qui témoignent que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ change la vie et que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui et peut nous sortir du marasme dans lequel nous sommes. Alors, c'était ça aujourd'hui mon propos, de vous dire que la seule et unique révélation, la seule et unique doctrine, c'est celle de la Bible, et de ne pas croire toutes celles qui disent que Jésus est fondateur de l'Église catholique, car c'est un mensonge, éhonté.